Papa, non, en 2024, créer un site web n'est plus une galère, c'est même devenu ultra simple, et notamment grâce à des solutions comme Squarespace. Squarespace est la plateforme tout en un pour permettre aux entrepreneurs de se démarquer et réussir en ligne, et ce, quelle que soit la taille de leur activité. Vous allez voir, tout y est. Vous pouvez vendre vos produits physiques ou services en un temps record. Vous avez des centaines de templates de sites web canon dans tous les domaines. Vous pouvez créer vos campagnes email. Vous pouvez même vendre votre propre formation en ligne. Donc, si vous voulez donner à votre business toutes les chances de se développer avec un outil à la fois performant et très simple d'utilisation, eh ben, je ne peux que vous recommander d'aller sur le site squarespace.com. En plus, à l'occasion de ce partenariat, Squarespace vous offre moins 10% sur votre première commande de site web ou de domaine avec le code Pauline. Alors, n'attendez plus et rendez-vous sur squarespace.com, code Pauline. Hello à tous, ici Pauline Léniaud et je suis ravie de vous accueillir pour ce nouvel épisode de mon podcast. Avant qu'on se lance dans l'épisode du jour, je peux pas m'empêcher de vous demander un petit service, un tout petit service, mais quand même important, mettre à ce podcast et à moi en somme une jolie note sur iTunes. Et bah ouais, ça fait quand même un moment que je vous l'ai pas demandé. Je constate que malgré le fait qu'on soit de plus en plus nombreux ici, vous êtes encore un certain nombre à n'être pas passé à la casserole, si je puis dire. Alors je sais que c'est pénible, je sais que vous avez autre chose à faire. Mais franchement, si vous aimez ce podcast, si vous aimez mon travail, pensez-y, ça prend que 2 minutes entre une pause café et le retour à votre bureau. Et moi, vous me ferez ma journée. Merci beaucoup d'avoir écouté ce petit message d'autopromo jusqu'ici. Mais trêve de bavardage, qui est l'invité du jour ? Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Luc Julien, qui est chercheur, ingénieur, informaticien spécialisé dans l'intelligence artificielle. Tout ça fait peur, mais je vous rassure, Luc est à mourir de rire. Pour le situer avec des mots simples, en plus, Luc est vraiment juste une superstar de l'intelligence artificielle, c'est, je dirais, l'un des ingénieurs les plus influents et les plus respectés au monde, tout simplement. Alors avec cette interview, je dois vous dire que je sors un peu de ma zone de confort parce que l'informatique et puis l'intelligence artificielle, c'est pas précisément mon domaine de prédilection, mais j'ai profité de la présence de Luc pour parler de son parcours, bien sûr, de comment il en était arrivé là, et puis surtout d'échanger sur des questions d'actualité, des questions qui nous intéressent tous les deux. Par exemple, l'importance de la diversité pour créer plus de valeur dans un groupe de personnes, l'écart entre la culture de la recherche française et américaine, les idées reçues sur l'intelligence artificielle, et vous allez voir, c'est passionnant, le rôle de l'éducation pour combattre les préjugés, ou en quoi des personnalités aussi reconnues qu'Elon Musk ou Bill Gates se sont trompées en parlant des méfaits de l'intelligence artificielle. Bref, un épisode dense, un épisode profond, mais émaillé de plusieurs fous rires irrésistibles, tant Luc a un humour décapant. Mention spéciale d'ailleurs pour la stupidité artificielle et les chevals, mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Luc Julien. Bonjour Luc.
Bonjour Pauline.
Je suis ravie de vous accueillir.
Plaisir.
Merci d'être venu sur le podcast. J'ai une question très compliquée pour commencer, puisque j'aimerais commencer par comprendre d'où vous venez, où vous êtes né, où est-ce que vous avez grandi. En bref, avoir un petit background check, comme disent nos amis américains, sur un peu votre enfance, pour qu'on comprenne un petit peu plus d'où vous venez.
C'était il y a longtemps déjà, mais je viens de Toulouse, donc je suis toulousain. J'ai vécu première partie de ma vie là-bas, et je suis rapidement venu à Paris pour faire mes études, et je suis après ça parti très rapidement aussi aux États-Unis, où je suis depuis maintenant 27 ans.
C'est ce que j'ai lu sur vous, parce que vous voyez, j'ai pas mal de papiers devant moi, parce que j'ai fait beaucoup de recherches sur vous, et alors j'ai vu que vous étiez effectivement très tôt parti aux US, ce qui était quand même... pas fréquent, je pense, à l'époque. Et je voulais vous demander, qu'est-ce qui a fait justement que vous quittiez la France aussi jeune pour partir aux États-Unis à une époque où franchement, ça se faisait quand même beaucoup moins que maintenant.
Ouais. À l'âge de 5 ans, je disais à mes parents que je voulais être chercheur au CNRS.
D'accord.
Donc, j'ai réussi à rentrer au CNRS.
Mais je suis désolé, Luc, je suis obligé de vous interrompre. Pourquoi vous saviez que vous vouliez être ingénieur?
C'est compliqué comme question.
Bah oui.
Certainement parce que mes parents étaient enseignants et quelque part, dans la maison, j'avais entendu parler de CNRS. Et donc, j'avais décidé que je voulais être chercheur au CNRS.
Parce que c'est pas commun quand même à 5 ans de se dire que...
Non, mais bon, j'espère que je suis pas commun.
Non.
donc voilà, c'était mon rêve depuis tout petit, on va dire. Et donc, quand je suis rentré au CNRS, ça a été la plus grande désillusion de ma vie, je pense, parce que c'était pas du tout ce que j'avais fantasmé depuis, on va dire, une petite vingtaine d'années.
Quelles étaient les différences?
Différence essentielle, c'était un manque total de coopération entre les différents labos. Parce que, bon, on va peut-être en parler plus tard, mais mon dada, c'est la coopération, la collaboration avec les gens, des gens différents, des gens qui font des choses ensemble, incroyables, et trouver quelque chose, quand on est chercheur, on essaye de trouver quelque chose, on fait pas tout seul. Mmh. Et donc, quand je me suis aperçu dans le labo qui était tout près d'ici, d'ailleurs, dans lequel j'étais, qu'on m'a raconté qu'il fallait surtout pas que je coopère avec un autre labo qui était pas loin non plus, ça m'a un peu déçu et je suis parti. Pourquoi? Parce que
on vous a dit qu'il fallait pas que vous coopériez avec un autre labo, carrément.
C'était des histoires de budget, des trucs que je comprenais pas. De toute façon, en étant idéaliste aussi à l'époque. Et donc, on m'a dit, il faut pas que tu coopères avec eux, sinon ils auront plus de sous que nous au prochain budget et c'est pas bien. Voilà. Donc, ça m'a déçu, hein, dans mon idéal de la recherche qui était cette coopération, et surtout qu'il y avait, pendant que je faisais ma thèse, il y avait un gars qui faisait un truc très très similaire à ce que moi je faisais, et on trouvait que travailler ensemble c'était plutôt une bonne idée, au lieu de se tirer la bourre. Et voilà, donc ça l'a pas fait, et étant donné que je suis un peu impulsif, j'ai décidé de me casser, et je me suis cassé.
Vous vous cassez dans la Silicon Valley?
Non, je pars d'abord au MIT à Boston.
D'accord.
Donc, parce que je peux. Parce que, bon, j'avais, pendant ma thèse, justement, j'avais un peu fait des relations avec plein de gens. Et donc, MIT, pour quelqu'un qui faisait des sciences comme moi et qui faisait de l'intelligence artificielle, de computer science, comme on dit là-bas, c'était un peu normal, c'était un peu un rêve. Donc, je suis parti à Boston. Et puis, je suis pas resté très très longtemps. Parce qu'à Boston, contrairement à Toulouse, il fait un peu frais, surtout après le mois d'octobre. Et du mois de juin au mois d'octobre, c'était chouette, mais après, trop froid. Et là, parce que aussi je pouvais, je suis parti en Californie, et là, il fait meilleur.
Et je vois d'ailleurs que vous avez une très belle chemise, et je crois savoir que vous êtes fan en plus de chemises hawaïennes.
Oui, j'ai une seule marque, je vais pas la citer, mais je ne porte qu'une seule marque de chemise.
D'accord.
Et je ne porte que des chemises hawaïennes depuis une vingtaine d'années, oui.
Mais des vintage ou des...
Des vrais. Hawaii, et qui sont, bon, encore une fois, je dirais pas la marque, mais c'est une marque hawaïenne qui est très connue pour les gens qui aiment les chemises hawaïennes.
Très bien. Et vous avez découvert ça certainement aux États-Unis?
Oui, bien sûr. C'était il y a 20 ans.
Alors, quand vous arrivez justement dans la deuxième partie de ce voyage aux États-Unis, vous commencez à travailler, je crois, en labo, si je me trompe pas. Et là, vous me dites, j'ai lu que vous aviez trouvé l'expérience complètement différente justement de ce que vous aviez pu vivre en France. En quoi était-ce différent?
Justement, coopération. Donc la Silicon Valley, hein, puisque c'est dans ce dont on parle, Stanford, c'est en plein milieu de la Silicon Valley. La Silicon Valley, c'est un endroit justement de coopération, un endroit extraordinaire. Alors bon, on peut raconter beaucoup de bêtises sur la Silicon Valley, mais il se trouve que c'est un esprit qui est pour moi l'esprit de la ruée vers l'or des années 1850. Hein, donc on est encore bloqué 150 ans en arrière. Et donc c'est quoi cet esprit? C'est la ruée vers l'or. C'est quoi? C'est des gens différents qui viennent de plein d'endroits différents. Donc multiculturalisme, enfin vraiment très très poussé, qui viennent dans un seul but, trouver des pépites. D'accord. Donc à l'époque c'était des pépites d'or. Aujourd'hui c'est des pépites software ou hardware. Enfin bon, de l'électronique, de l'informatique. Mais surtout c'est des gens qui viennent s'entraider pour trouver ces pépites. Et cet esprit de la ruée vers l'or, il a pas changé. Alors c'est un melting pot, hein, comme on dit aussi, c'est-à-dire que c'est des gens très très différents, parce que, par exemple, dans ma dernière équipe que j'avais là-bas, sur une centaine de personnes, j'avais deux Américains. D'accord. Donc ça veut dire qu'il y avait 98% de non-américains. Et donc du coup, ces gens venus de cultures différentes, de milieux différents, de plein d'endroits différents, ben, ils viennent pour dans un seul but, et ils viennent coopérer, ils viennent s'amuser. Et une autre chose aussi, c'est que comme j'ai dit, j'étais un peu déçu par la France, enfin par le CNRS en l'occurrence, par le labo où j'étais au moins, et parce qu'on coopérait pas. Et là, je me retrouve dans ce lieu mythique, hein, pour un informaticien, qui est la Silicon Valley, et un lieu particulier à l'intérieur qui s'appelle le Xerox Park. Alors, Xerox Park, c'est quoi? C'est un endroit, Xerox, hein, on connaît la marque, mais Xerox Park, c'était un endroit de recherche où il y avait... Tout a été inventé dans l'informatique, en gros, dans les années 60. Hein, donc c'est mythique, ça donne la chair de poule à tous les informaticiens. Et donc je me retrouve un jour là-dedans, très très tôt, hein, c'était en janvier 94, et il y avait un meeting qui avait lieu tous les mois, qui s'appelait BCI, donc Computer Human Interaction, c'est ma spécialité, c'est l'interaction de machines. Et donc, il y avait un meeting tous les mois dans cet amphithéâtre mythique, très très moche, hein, construit dans les années 70, le truc affreux, enfin. Mais vous rentrez à l'intérieur et c'est Disneyland, quoi. Et donc, vous avez là tous les gars que j'ai pu citer dans ma thèse, ils sont là en train de papoter, en train de discuter. Alors, ils ont tous, à l'époque, ils ont tous 50, 60 ans, c'est des vieux pour moi.
C'est incroyable.
Et ils papotent, et ils discutent sur un sujet particulier et pour faire avancer le public. Mais les gars, en plus, ils sont de plein de boîtes différentes. C'est-à-dire qu'ils travaillent pas tous dans la même boîte. Ils travaillent chez IBM, ils travaillent chez Microsoft, ils travaillent chez toutes les boîtes sauf Apple. On y reviendra certainement. et moi, je vois tous ces gens qui sont mes héros, en quelque sorte, hein, qui sont en train de discuter. Ils brassent des milliards. Je veux dire, toutes ces boîtes, elles brassent des sommes extraordinaires. Mais pour la science, ils travaillent ensemble. Et alors évidemment, ils vont pas partager des secrets industriels, ils sont pas complètement idiots. Mais pour des points particuliers, ils se challengent, et ça, ça a été exactement le contraire de ce qu'on m'avait, entre guillemets, appris au CNRS dans mon labo ici. Voilà. Donc ça a été le choc qui a fait que j'étais pas sûr de rester, en fait, franchement, aux États-Unis. Je savais pas trop ce que j'allais faire, hein, à 20 et quelques années. Bon, je savais pas trop ce que c'était. Mais là, c'est ce jour-là, je pense que je me suis dit, waouh, c'est ici que je suis et que je vais rester pour un petit moment.
C'est incroyable comme histoire. J'imagine qu'à l'époque, vous avez dû ressentir, un tel engouement, en fait, pour cette envie de partage, quoi. Ça a dû être quelque chose. Je voulais vous demander, pour parler un tout petit peu de moi, j'ai fait des études littéraires, il se trouve que j'ai fait l'ENS, qui est pas très loin d'ici. À l'époque où j'étais assez choquée de voir qu'on s'intéressait beaucoup à des sujets qui étaient assez, théoriques, souvent, pas très appliqués dans la vraie vie. Et moi, ça m'a profondément embêtée, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai quitté, que j'ai renoncé, etc., à toutes ces études. J'ai la sensation qu'aux États-Unis, notamment dans la Silicon Valley, justement, c'est l'inverse. Et qu'il y a un peu de deux visions qui s'affrontent, mais peut-être que je me trompe et j'aimerais votre avis là-dessus, sur une vision très fondamentale de la science, ou de la littérature, peu importe, et à l'inverse, beaucoup plus appliquée aux États-Unis.
La recherche fondamentale est nécessaire. D'accord, donc il faut de toute façon quelque part avoir des gens qui vont s'appliquer à creuser un problème très en profondeur et aller en chercher les détails extraordinaires. Mais c'est vrai que moi, ce que j'aime bien et ce que j'aime bien dans la Silicon Valley et ce qui est aussi au MIT, c'est une recherche qui est un peu plus appliquée effectivement, dans laquelle on va créer des choses. Moi, j'aime bien dire que je crée des choses pour les vrais gens. D'accord, donc pour ça, il faut appliquer effectivement la science, les sciences, pour pouvoir trouver des choses qui vont être complètement opérationnelles, complètement pratiques pour ces gens-là. D'accord, donc effectivement, ma science à moi, ce que je fais, c'est beaucoup plus appliqué que ce que peuvent faire des gens qui vont être dans le fondamental. Pourquoi j'aime pas trop le fondamental aussi? Encore une fois, je le respecte, mais j'aime pas trop ça, le faire moi-même, parce que il n'y a pas cette multidisciplinarité dont je parlais un peu tout à l'heure aussi, ce multiculturalisme, il est beaucoup plus difficile à appliquer. Parce que par définition, quand vous cherchez quelque chose en particulier, dans une manière très très profonde, que vous faites du fondamental, vous sortez pas vraiment de votre domaine. Ce qui m'intéresse, moi, dans la recherche et dans les gens et dans ce qu'on fait en général avec ces gens-là, c'est que ces gens sont différents et c'est avec des regards, des prismes différents qu'on arrive à faire des choses qui sont pas normales, enfin, qui sont justement différentes, qui pour moi sont les vraies découvertes. Parce que c'est super compliqué, c'est super difficile de trouver des choses, d'accord? Mais quand vous mettez des gens dans ce que j'appelle des situations d'inconfort, vous les mettez en face de problèmes qui ne sont pas habituels pour eux, mais qu'ils regardent avec leurs yeux, avec leur propre science, qu'ils masterisent, je sais pas si on dit ça, mais qu'ils peuvent facilement expliquer, ils vont avoir un autre regard qui va faire qu'on va certainement découvrir cette science d'une autre façon. Et c'est ça qui va créer, qui va nous faire inventer quelque chose. Et cette histoire de vouloir être chercheur quand j'avais 5 ans, pour moi, être chercheur, c'est découvrir des choses, c'est trouver des choses. C'est pas tellement chercher, c'est surtout trouver qui est intéressant.
Ça, j'aime bien. Vous parlez de créer des ponts, quoi, si je résume. Et est-ce que vous auriez un exemple qui vous aurait marqué, qu'on puisse comprendre, notamment pour quelqu'un comme moi qui est très très nul en maths, justement d'une situation où l'inconfort aurait créé quelque chose, aurait permis de trouver quelque chose?
Alors, c'est pas l'inconfort dont je voulais parler. Je voulais vous parler de la multidisciplinarité. D'accord, et du fait que c'est un peu l'inconfort, en fait. Et ça date d'ici, en fait, ça date de France. Avant que je parte, c'est pendant que je faisais ma thèse, Je faisais de la reconnaissance visuelle. J'essayais de comprendre comment on pouvait faire comprendre à un ordinateur comment comprendre les choses qu'il voyait. D'accord? Bon, on s'en fiche, c'est pas très très important. Mais j'étais quand même très... c'est très scientifique, c'est des maths, effectivement. Mmh. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui de l'intelligence artificielle. Et donc, je faisais ça. Et je faisais 2, 3, 4 ans que je faisais ça. Et un jour, je devais aller voir un pote, moi, à la fac de Jussieu, et j'étais à l'heure, parce que je suis toujours à l'heure.
Je confirme.
Et lui, il est en retard. Et je me retrouve dans cette fac de Jussieu à attendre les bibliothèques, et devant une table sur laquelle il y a un bouquin sur la physiologie du chat. Alors, la physiologie du chat, vous voyez, moi, j'en ai strictement rien à faire. Je m'en fous, mais alors, d'une manière absolument extraordinaire. D'une part, j'aime pas les chats, et d'autre part, la physiologie, je comprends rien et ça m'intéresse pas. Mais bon, je m'embêtais vraiment parce que je me mets à feuilleter ce bouquin, et en feuilletant comme ça, vers le milieu du bouquin, page 133, je trouve un article sur la vision du chat. Et je lis cet article sur la vision du chat et je me rends compte que le chat voit exactement à l'opposé de ce que nous, on voit. Nous, on voit du détail au gros, et le chat voit du gros au détail. Alors ça n'a pas d'importance comme ça, on s'en fiche un peu, sauf que pour mes algorithmes que j'essayais de créer depuis des années maintenant, je me suis rendu compte que j'essayais de faire comme nous on fait, hein, c'est-à-dire du détail au gros. Et ça m'a intrigué un peu, mon pote est arrivé, on est allé manger, et le soir, je me suis rappelé de cet article, et j'ai implémenté un algorithme qui ressemblait un peu à ce que j'avais compris de la vision du chat. Et mon algorithme a performé 1000 fois mieux que ce qu'il avait jamais performé avant. 1000 fois, c'est pas une blague, c'est vraiment 1000 fois mieux. Et ben voilà, c'est ce jour-là, je me suis dit, regardez avec les yeux de quelqu'un d'autre, avec une autre science, avec une autre façon de voir le monde, c'est pas mal aussi. Donc cette multidisciplinarité est venue une philosophie depuis. Et dans toutes mes équipes depuis, depuis maintenant une trentaine d'années, j'injecte toujours des gens différents, non seulement par leur culture, comme j'ai dit tout à l'heure, mais aussi par leur spécialité. Et ça va loin, parce que on parlera certainement de Siri tout à l'heure. Dans Siri, j'ai mis des scénaristes de Hollywood. Je veux dire, vraiment, c'est des trucs...
Ah, oui.
Oui, ça n'a rien à voir avec, évidemment, les gens qui font de la reconnaissance ou de la parole. Dans mes équipes initiale à Stanford, j'avais des psychologues au milieu de tous ces scientifiques qui étaient, je sais pas que les psychologues sont pas scientifiques, mais par rapport à ces informaticiens, on va dire, c'était très différent. Voilà, donc moi j'aime bien mélanger les genres, et c'est ça qui crée l'inconfort, mais c'est un confort qui crée du nouveau.
Je trouve ça passionnant. J'aimerais beaucoup en parler parce que je pense que beaucoup de notamment créateurs d'entreprises, dirigeants d'entreprises, auraient à bénéficier de ce type de conseils. On sait que la diversité, pas uniquement ethnique, est extrêmement importante. Comment vous faites concrètement? Est-ce que vous pourriez prendre un exemple d'une équipe que vous avez créée? Parce que c'est bien de se dire « je veux de la diversité », mais après, trouver les bonnes personnes et faire en sorte surtout que ça marche, c'est très difficile.
Oui et non. C'est-à-dire que quand vous mettez ça comme postulat au départ et vous dites « les gars, c'est comme ça, c'est comme ça que ça va marcher. Pourquoi ? Parce que je sais. » Et donc, vous amenez justement des sexes différents, des cultures différentes. Donc tout ça, on travaille sur un projet. On travaille sur des choses qui deviennent excitantes juste par la façon dont l'autre voit ce qu'on est en train de faire. Et franchement, j'ai jamais eu de problème. Et d'ailleurs, ça s'est concrétisé dans les années qui sont suivies, parce que toutes les équipes que j'ai eues, et par exemple, la toute dernière équipe que j'ai eue en Californie, le manager principal de cette équipe, c'était un de mes stagiaires de 1998. D'accord? Donc, j'ai toujours eu des gens qui sont venus et qui ont suivi tout le temps. Et justement, à cause de cette petite différence qui faisait qu'on était, je vais pas dire on était une famille, il faut pas exagérer, mais je veux dire, on était dans cet état où on n'avait pas, il y avait pas de conflit, en fait. Franchement, en presque 30 ans, j'ai jamais eu à manager des conflits énormes, et j'ai pratiquement jamais viré personne. Ce qui est aussi relativement intéressant. Alors, ça veut pas dire que j'ai réussi tout le temps mes recrutements, mais, Les recrutements aussi, j'avais une chance de pouvoir les faire dans le temps long. C'est-à-dire que je suis incapable, dans une interview d'une heure, de savoir si la personne est bonne ou pas, j'en sais rien. Par contre, j'avais la chance de pouvoir faire des recrutements de 6 mois. C'est-à-dire que je faisais des stages, en gros.
Et donc,
je les ai bossés pendant 6 mois. Et puis, au bout de 1, 2, 3 mois, je commençais à comprendre si la personne pouvait s'adapter à ce genre d'environnement. Parce qu'effectivement, c'est pas facile. Mais il y en a très, très peu qui sont partis, franchement. Et donc ça, ben, pour vous donner un exemple de la psychologue, par exemple, la première que j'ai engagée en 95 ou 96 à Stanford, ben, c'était une personne qui était un peu étonnée que je l'approche, hein, parce que elle se retrouve dans ce milieu d'informaticiens. Alors, c'était des informaticiens différents aussi, dans le sens où ils venaient à l'intérieur de l'informatique, il y a plein de disciplines différentes, et donc ils venaient, eux, justement, déjà de disciplines différentes. Donc je les avais mélangés dans l'informatique. Et là, en plus, donc je ajoute cette psychologue. Alors eux, ils me prennent pour un taré, évidemment, d'amener une personne comme ça. Et elle se demande un peu ce qu'elle fait au début, mais bon, elle a compris que c'était... On était en train de créer des produits pour les vrais gens, comme je disais tout à l'heure. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour créer ces produits, il fallait vraiment se mettre dans les chaussures. Je sais pas si on dit ça en français, mais.
Dans les baskets, je crois qu'on dit se mettre dans les baskets de quelqu'un.
Dans les baskets, voilà. Donc, il fallait se mettre dans les baskets de la personne. Et donc, une psychologue, c'était parfait pour ça. Ouais. Parce qu'elle pouvait, elle avait une vision de personnalité vachement différente. D'accord? Et donc, elle pouvait se mettre avec une seule personne, je pouvais réussir à avoir un panel de vrais gens qui pouvaient me permettre de savoir comment les gens allaient réagir en face de ce produit. Donc, en fait, ça faisait du sens d'avoir une personne comme ça. Et les ingénieurs se sont vite habitués, hein, parce qu'elle a fait partie de l'équipe immédiatement et il n'y a pas eu de problème.
Donc, ça veut dire que vous, quand même, au niveau de la conception, on va dire, de l'équipe, vous réfléchissez quand même en amont, évidemment, à vous dire, OK, bah là, je suis en train de faire tel produit, je sais pas, prenons l'exemple de Siri. Pourquoi avoir des scénaristes hollywoodiens?
Je vous raconterai l'histoire du scénariste hollywoodien, mais oui, effectivement, on réfléchit à quelque chose, puis il y a une raison pour laquelle on va prendre ces gens-là. Par exemple, j'ai jamais eu le besoin d'embaucher un boulanger. Mmh. D'accord? Bon, c'est comme ça.
Mais
peut-être qu'un jour, ça arrivera. Donc, on découvre le besoin en fonction de ce qu'on est en train de faire aussi.
Hyper intéressant. Pour revenir à votre parcours, vous êtes à Stanford et vous commencez à travailler assez vite, donc pour diverses entreprises. Je ne sais pas d'ailleurs quelle est la première entreprise pour laquelle vous avez bossé. C'est Apple justement ?
Non. La première entreprise c'était Stanford Research Institute, donc c'était un labo de recherche. Donc j'ai fait ce que je voulais faire, c'est de la recherche. Je voulais être chercheur au CNRS. Mm-hmm. Et finalement, je me suis retrouvé chercheur à Stanford. Et donc le Stanford Research Institute c'est un labo multidisciplinaire, mais la différence avec le CNRS, c'est que c'est un labo sur un site. Donc c'est à côté de Stanford, et c'est 3000, à l'époque 3000 chercheurs, je sais pas combien ils sont maintenant, à l'époque 3000 chercheurs qui étaient sur un site et qui travaillaient sur des problèmes particuliers. Et donc je me suis retrouvé dans une équipe de reconnaissance de la parole au départ, d'intelligence artificielle et de reconnaissance de la parole. Puis après j'ai créé mon propre labo. Donc j'ai eu la chance qu'on me donne les clés relativement rapidement, au bout de 2-3 ans. Mon manager m'a dit « toi t'es gentil, tu bosses comme un fou, fais ton labo ». Évidemment, j'avais le schéma intellectuel du CNRS, chercheur 1, chercheur 2, directeur 1, directeur 2. Donc bon, et là il me dit « prends les clés et fais un labo ». Je dis « je sais pas comment on fait, mais... » T'en fais pas. Donc, il me donne un peu de sous et il me dit surtout, va chercher les gens que tu veux. Et c'est là que je savais déjà, mon idée, c'était d'aller piquer un peu des gens différents. Et donc, je suis allé piquer des gens un peu différents dans tous les différents labos. Et une quinzaine de personnes au début, on a commencé un lab qui s'appelait CHIC. Donc, c'était très français, hein, Computer Human Interaction Center. J'aime beaucoup les acronymes. Ça voulait dire quelque chose et c'était chic en même temps. Et donc, c'était rigolo. Et voilà. Donc, j'ai créé ce labo avec celui qui est devenu le co-créateur de Siri, et on a fait ça pendant 3-4 ans pour commencer. Ça, c'était l'époque donc de recherche. Donc, c'était ma première partie de vie entre la France vie professionnelle entre la France et là-bas. C'était 10 ans de recherche. Après ça, j'ai fait 10 ans de start-up. Parce que dans la Silicon Valley, si vous faites pas des start-up, vous êtes un bouffon. Hein. Donc, j'ai fait 10 ans de start-up, 4-5 start-up. Et puis après, j'ai fait 10 ans de grosse boîte. D'accord, donc j'aime bien faire des trucs.
Vous avez tout testé, quoi.
Pardon ?
Les 10 prochaines années.
Je vous le dirai bientôt.
Ouais. Vous m'avez parlé à plusieurs reprises donc de Syrie. Évidemment, il fallait qu'on en parle. Donc, je reviens à cette question. Pourquoi avoir pris des scénaristes de Hollywood pour créer Syrie ?
Alors, un autre truc, alors je veux pas paraître le gars hyper modeste, machin et tout ça, c'est pas ça, mais on savait que ça marchait pas. D'accord? Ouais. Donc, il faut être très clair quand même. On est dans les années 90 maintenant, hein. D'accord? Syrie, ça date de 97, même si c'est arrivé en grand public en 2011. Ça date de 97, les brevets avec Adam Shire, le gars dont je parlais tout à l'heure. En 97, on crée un machin qui fait la reconnaissance de la parole. Donc, on appelait ça The Assistant. D'accord? Donc, c'est un assistant vocal qui devait nous aider à naviguer Internet. D'accord? Donc, c'était le but. Ça marchait pas du tout. Enfin, ça marchait pas bien. Ça marchait à 80% à peu près. Comme tous les reconnaisseurs vocaux à l'époque. Même on était certainement pas dans les meilleurs. D'accord? Et donc, du coup, au lieu de dire, on est les meilleurs, on a dit, on n'est pas très bon, mais on va rajouter un petit truc qui va faire marrer les gens. Et donc, c'est quoi? C'est que...
Il y a un peu de marketing dans la recherche, en fait.
quand vous savez que vous êtes pas bon, il faut trouver autre chose, quoi. Et donc là, on a dit, ce qu'on va faire, c'est que on va créer. On a mis des mots depuis dessus. On va créer, au lieu de l'intelligence artificielle d'un assistant, on va créer la stupidité artificielle. Et la stupidité artificielle, c'est quoi? C'est ce que j'appelle la théorie de la boîte de nuit. Alors bon, je vais m'étaler un peu.
Allez-y,
sur la théorie
parce
de la boîte
que
de nuit.
Le nom déjà me plaît.
Voilà, la théorie de la boîte de nuit, elle, c'est simple. Vous êtes dans une boîte de nuit. Il y a beaucoup de bruit. D'accord. Et puis vous êtes en discussion avec quelqu'un qui vous intéresse, d'accord. Comme ça, vous discutez. Mais il y a beaucoup de bruit et vous comprenez à peu près justement 80% de ce qu'elle vous dit cette personne, d'accord. Mais vous, vous êtes quand même intéressé, donc vous restez là comme ça. Et puis, au bout d'un moment, c'est à vous de parler. Et malheureusement, vous avez compris quand même 80% des trucs. Si vous avez 80% des mots dans un bouquin. Et il va vous manquer des trucs, hein. Ça fait des trous dans la page, hein. Ça fait une trentaine de mots par page qui manquent, c'est quand même beaucoup. Et donc, du coup, là, c'est à vous de parler maintenant. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? À ce moment-là, la stupidité artificielle, ça donne ça, ça donne.
C'est ce voilà. que je fais, là.
Voilà. Et donc, on s'est dit, il y a quelque chose à faire là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet assistant, quand il comprend pas ce qu'on veut dire, on va lui faire parler d'autre chose. Et pour ça, nous, on n'est pas assez intelligent, assez fort, assez créatif pour créer des situations. On va demander à des gens de Hollywood de faire ça. D'accord? Et donc, on a demandé à des scénaristes de Hollywood de nous créer des situations. Quand Siri comprenait pas ce qui se passait, elle
racontait des trucs absurdes.
Voilà.
Très, très drôle comme histoire. J'aimerais, Luc, s'il vous plaît, parler un petit peu plus d'intelligence artificielle pour les personnes qui, comme moi, ne sont pas ni des ingénieurs ni des informaticiens, comprendre ce que c'est. Parce que je pense qu'il y a aussi énormément d'idées reçues sur le sujet, et je sais que ça a d'ailleurs été le thème d'un de vos ouvrages. Est-ce que vous pourriez déjà, de base, m'expliquer, me donner un peu une définition de c'est quoi l'intelligence artificielle?
Je peux déjà vous dire ce que c'est pas. D'accord? Parce que le bouquin dont vous parlez, il s'appelle L'intelligence artificielle n'existe pas. C'est parce que depuis une petite dizaine d'années, on nous rebat les oreilles avec l'intelligence artificielle. Tout le monde parle d'intelligence artificielle et personne ne sait de quoi il parle. Personne, sauf ces spécialistes d'intelligence artificielle. Mais on en parle de façon à ce que ça devienne un truc un peu fantastique. Un truc qui fait peur. Ou un truc qui fait rêver. D'accord? Et justement, on parle de l'intelligence artificielle comme un truc hollywoodien, en fait. Okay? Et les médias, franchement, ont beaucoup plus de facilité à parler d'intelligence artificielle, de faire les gros titres de journaux avec l'intelligence artificielle de Hollywood que la vraie. Parce que l'intelligence artificielle de Hollywood, elle fait effectivement peur, elle va vous prendre votre boulot, elle va vous tuer, elle va vous...
C'est Matrix, quoi.
Incroyable, hein, Matrix, Terminator, Her, enfin tout ce que vous pouvez imaginer. La vraie, donc celle qu'on fait nous au quotidien, celle qu'on fait et qui existe aujourd'hui, d'abord c'est pas une intelligence artificielle qui serait unique et qui serait générique et générale, qui pourrait tout décider dans le monde. Les intelligences artificielles, ce ne sont que des outils. Et ce sont des outils qui sont très 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 spécifiques et qui font des choses très très pointues, qui le font certainement mieux que vous, mais c'est la définition même de l'outil. Un marteau, il va planter le clou bien mieux que votre poing. D'accord? Donc, ce ne sont que des outils qui font mieux des tâches spécifiques, mais très très spécifiques. Mais comme le marteau, c'est vous qui tenez le manche. C'est-à-dire que c'est vous qui décidez comment l'utiliser, ce machin. Donc, comme tous les outils, vous pouvez l'utiliser à bon escient pour planter le clou, ou à mauvais escient pour vous taper sur la tête. D'accord? Donc, c'est ça. L'intelligence artificielle, c'est une boîte à outils avec plein d'outils, de plus en plus d'outils, qui sont très très forts, qui font les choses excellemment bien, mieux que nous, mais on en a le contrôle, et on en fait ce qu'on veut. Et si toutefois on en perd le contrôle, c'est parce qu'on l'a voulu. C'est parce qu'on l'a lâché le marteau. D'accord ? Donc, la vérité, c'est qu'il faut comprendre que ces intelligences artificielles, ces outils, ils sont basés aujourd'hui sur des mathématiques. Donc, c'est pas très sexy, effectivement. Si vous mettez en titre de journaux l'intelligence artificielle, c'est des maths, c'est moins rigolo que de mettre l'intelligence artificielle va vous tuer. D'accord ? Mais c'est que des maths. Depuis 1956, ça a été inventé en 1956, c'était des maths, c'était à l'époque des statistiques, après c'est devenu de la logique, et après c'est redevenu des statistiques, mais c'est que des maths, c'est complètement embêtant. N'importe qui maintenant peut faire de l'intelligence artificielle, et justement c'est un des problèmes aussi, c'est que c'est trop facile à faire, mais ça on peut y revenir, ça amène d'autres problèmes. Mais c'est des maths, c'est des outils mathématiques pour faire, pour réaliser des tâches, qui sont des tâches très 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 spécifiques, mais ils les font excessivement bien.
Probablement, voilà, plus rapidement, plus précisément. Exactement. Que l'homme. Et alors, pourquoi est-ce que, comme vous le disiez très justement, il y a autant de mythes autour de l'intelligence artificielle? Pourquoi est-ce que des personnes, parfois, sincèrement, très intelligentes et éduquées, en fait, en ont peur et disent l'intelligence artificielle, c'est un démon, on va pas réussir à la contrôler?
Ouais. Alors, ils sont éduqués, mais ils sont pas éduqués en intelligence artificielle, ceux-là. D'accord? Donc là, il y a des noms, en particulier, les gens qui ont dit des choses comme ça. Alors, il y a Elon Musk, ça c'est un cas particulier, on peut en parler plus tard. Mais sinon, il y a des gens comme Stephen Hawking, par exemple, qui étaient...
On se dit quand même qu'ils sont pas débiles, quoi.
Ouais, qui étaient effectivement pas débiles du tout, certainement un des plus grands scientifiques de la Terre, que la Terre ait pu porter, mais... malheureusement, il savait pas ce que c'était que l'intelligence artificielle. Donc, il s'est certainement fait un peu influencer par d'autres personnes qui lui ont dit que, il y avait ça. Donc, je pense pas qu'il avait fait ses recherches personnellement. Des gens comme, comment s'appelle-t-il, le fondateur de Microsoft, Bill Gates.
Bill Gates, ouais.
Bill Gates a dit aussi, l'intelligence artificielle est un démon. Mais relativement rapidement, quand il a commencé à comprendre ce que c'était, donc il avait parlé sans avoir tourné la langue cette fois dans sa bouche.
Même lui, il fait cette erreur.
Même lui, il l'a fait, oui. Mais après, il est revenu dessus en disant « non, c'est bon ». Alors, un gars comme Musk, là, c'est un cas particulier. Donc, Musk, c'est un timbré, d'accord ? Il est fou, comme la plupart des gens qui font des trucs géniaux. Donc, mais il est fou égocentriste, d'accord ? Et donc, tout ce qui l'intéresse, c'est de parler de lui. Donc, il va parler essentiellement de l'intelligence artificielle juste pour faire mousser soit ses compagnies, soit lui-même. Bon, c'est pas tellement intéressant, parce que du coup, il dit n'importe quoi. Alors, il dit vraiment n'importe quoi sur l'intelligence artificielle. Il a des boîtes extraordinaires, il fait des trucs extraordinaires, c'est un visionnaire de produits, mais c'est pas un gars qui fait de l'intelligence artificielle. Quand il fait de l'intelligence artificielle, quand il dit qu'il fait de l'intelligence artificielle, il l'a fait pour lui-même, donc pour pouvoir dire qu'il est lui-même.
Donc pour vous, enfin, et c'est pas pour vous, enfin, je pense que vous êtes la meilleure personne pour en parler, mais en gros, la crainte qu'ont beaucoup de personnes que l'intelligence artificielle nous dépasse et que les machines, c'est parce que c'est ça finalement, finalement, à un moment donné, on en perd le contrôle et qu'elles commencent à agir, donc c'est vraiment le scénario catastrophe Matrix, ce scénario en fait n'est pas possible.
Il est absolument pas possible, donc on tient le mange-marteau, comme je disais, d'accord ? Alors on peut avoir des gens qui tiennent le mange-marteau et mettre sous leur joue d'autres gens qui n'ont pas le mange-marteau. Ouais. Et comment ça se fait ? Ça se fait par le manque d'éducation. D'accord ? La clé de tout ça, c'est l'éducation. D'accord ? À la fin, et c'est pour ça que moi je parle souvent, je parle beaucoup d'intelligence artificielle, c'est pour ça que j'ai écrit ce bouquin aussi, c'est pour que les gens puissent se rendre compte que ce que c'est vraiment, s'éduquer dessus, et donc après on peut pas leur raconter n'importe quoi. D'accord ? Les fake news, les machins, tout ça, c'est facile, on raconte beaucoup de choses sur n'importe quoi et sur beaucoup beaucoup de choses, d'accord ? Donc on le sait aujourd'hui avec d'autres exemples, mais sur l'IA en l'occurrence, il y a quelques personnes, Yann Lequin qui est un spécialiste de l'intelligence artificielle, un autre français qui est très très fort, il vous dira à peu près la même chose que moi. D'accord ? Donc, il y a des différences d'appréciation chez ces scientifiques, mais en gros, on dit tous la même chose. Okay ? Les gens qui n'en font pas, eux, c'est ceux qui ne sont pas éduqués sur le sujet. Nous, on essaie d'éduquer les masses, d'éduquer tout le monde, pour que tout le monde puisse se faire sa propre opinion et puisse se dire, ah bah ouais, finalement, c'est qu'un marteau, et j'en tiens le manche, et j'en fais ce que je veux. Mais vous pouvez tenir le manche seulement si vous comprenez comment ça marche, le truc.
C'est ça. J'avais une autre question par rapport à votre livre et à toutes ces idées reçues finalement sur l'intelligence artificielle. Là, on a parlé des idées reçues, on va dire, négatives, mais il y en a aussi peut-être des positives, des trop positives. Et notamment, vous l'avez évoqué un peu en filigrane, il y a quand même une espèce de mode totale autour de l'intelligence artificielle où on en bouffe à boire et à manger dans les médias et sincèrement, on n'en peut plus. Alors que je pense qu'il y a que le mot intelligence artificielle qui est de l'intelligence artificielle dans cette histoire. Est-ce que vous pourriez justement peut-être évoquer une autre idée reçue qui vous chagrine particulièrement et que bah, c'est l'opportunité parfaite pour éduquer nos auditeurs?
Donc, je ne sais pas si c'est du parfait, mais en tout cas, dans ce qu'on voit, dans ce qu'on dit sur l'intelligence artificielle, on dit l'intelligence artificielle va remplacer des métiers, va nous remplacer, va remplacer des gens qui font des trucs, et donc ça va amener du chômage, blablabla. D'accord. Alors c'est peut-être négatif ou positif, ça dépend de quel côté on le voit. Mais en général et depuis longtemps en fait, ces outils dont je parle, ils viennent remplacer des tâches qui sont des tâches répétitives, qui sont pas tellement agréables, etc. Mais aujourd'hui, quand on regarde un peu ces intelligences artificielles, la façon dont elles sont utilisées, elles remplacent des tâches. Elles remplacent pas des métiers. D'accord. Donc déjà, il faut comprendre ça. Donc il se trouve qu'il y a certains métiers où toutes les tâches pourraient être remplacées. D'accord? Est-ce que c'est mauvais ou bon de remplacer des tâches répétitives, fatigantes, qui font mal au dos, aux pieds, etc.? Encore une fois, on peut en discuter. Moi, je pense que c'est plutôt bien. C'est d'autant mieux si on s'éduque sur le fait que c'est possible que ces tâches et ces métiers soient remplacés, pour pouvoir les remplacer avec d'autres métiers. Parce que quand vous demandez à des sociologues, cette fois-ci, qui vont étudier les métiers et la façon dont la société évolue en général, ils vont vous dire, de toute façon, depuis la nuit des temps, les métiers sont petit à petit remplacés, d'accord ? Les tâches et les métiers sont remplacés, et on en crée des nouveaux. Et si, en particulier, une étude d'Harvard assez récente qui dit qu'en 2035, donc... pas dans très longtemps, hein, il y aura certainement 80% des métiers de 2035 qui n'existent pas aujourd'hui.
Bien sûr.
D'accord. Donc, et quand on réfléchit, il y a plein d'exemples. Alors, il y en a un que je vais vous donner tout de suite, qui est un exemple qu'on va tous comprendre, qui est l'exemple des guichetiers dans les banques qui, dans les années 90, ont commencé à se faire remplacer par les machines, les DAB, les distributeurs automatiques de billets. Okay, les syndicats avaient dit, oh là là, il va plus y avoir de guichetiers dans les banques. On va tous les remplacer et il va y avoir 25% de guichetiers en moins dans 10 ans. Ça a mis effectivement 10 ans à se dérouler, d'accord ? Donc on a eu dans toutes les banques des distributeurs automatiques de billets. 2000, donc 1990-2000, plus 3% de guichetiers dans les banques. Pourquoi ? Ça n'a aucun sens. La logique aurait pu faire croire qu'effectivement, les guichetiers allaient être remplacés puisqu'on mettait des DAB. Ben ouais, mais le problème, c'est que la banque a changé aussi pendant ces 10 ans. La banque est devenue quelque chose d'autre, la banque est devenue un assureur, la banque est devenue d'autres choses. Et donc, ces guichetiers sont devenus des gens qui vendaient maintenant de l'assurance, qui, bon, ils distribuaient plus de billets, mais ils étaient plus des conseillers, des choses comme ça. Et si vous demandez à ces gens, justement, qui sont devenus distributeurs de billets, ils sont devenus associés à une vente de produits banquiers ou produits d'assurance, etc., leur métier a évolué et est beaucoup plus agréable et ils sont beaucoup plus contents. Donc, il y a une évolution des métiers depuis un des temps, tout le temps, d'accord, sans forcément qu'on le comprenne et qu'on le voit et qu'on puisse l'anticiper. Mais de plus en plus, on est aussi capable d'en anticiper par l'éducation, en sachant ce que peuvent faire ces robots de plus en plus. Et donc, on va pouvoir dire, bah, tiens, on sait que là, bah, ça va être un peu compliqué, donc on va essayer d'éduquer ces gens-là pour essayer d'aller vers quelque chose d'autre. Parce que ce quelque chose d'autre va exister.
Donc Schumpeter avait raison.
Bah oui, à la fin, c'est...
Comme toujours. Je voulais parler d'engagement avec vous pour l'éducation parce que j'ai l'impression que c'est un sujet qui vous tient à cœur et je voulais savoir pourquoi, parce que ce que je trouve intéressant, c'est que finalement vous avez quitté la France, vous êtes allé aux États-Unis. On pourrait penser que bah vous avez un peu un petit vous êtes pas très content quoi avec la France et puis pourtant vous êtes là avec moi aujourd'hui, vous parlez en fait de ces sujets, vous avez écrit un livre, enfin bref, vous donnez quoi. Donc j'aimerais comprendre pourquoi est-ce que vous faites tout ça?
Bon, effectivement, l'éducation, pour moi, c'est super important parce que je veux que les gens comprennent qu'ils arrêtent de dire n'importe quoi. Je veux qu'on arrête de dire n'importe quoi sur tous les sujets, quels qu'ils soient. Et se former, essayer d'avoir sa propre opinion plutôt que d'écouter n'importe quel débile qui raconte n'importe quoi. Donc ça, pour moi, c'est ça, l'éducation. Donc, essayer de faire en sorte. Donc, c'est important. Ça vient certainement du fait que, comme j'ai dit tout à l'heure, mes parents étaient enseignants et c'est peut-être dans mes gènes. Mais à la fin, j'adore ce pays. Hein. Je viens en France depuis plus de 20 ans. Je viens en France tous les mois. Donc, je viens quand même souvent. Parce que je sais que quelque part, je dois beaucoup à ce pays, quoi. Je dois tout. Hein. Mon éducation, je l'ai faite ici. Et cette éducation, justement, sur laquelle on crache, hein, on adore cracher sur nous-mêmes, de toute façon, on adore ça ici en France, cette éducation, elle est quand même extraordinaire. Alors, il y a plein de côtés négatifs, on laisse certainement beaucoup trop de gens sur le bord de la route, on n'est pas assez inclusif et tout ça, mais les gens qu'on forme, quand on les forme bien, ils sont extraordinaires. Et je le dis, et j'ai aucune honte de le dire, et je le dis partout dans le monde, à n'importe qui, nous avons, ici en France, les meilleurs ingénieurs du monde. On a les meilleurs mathématiciens du monde. Point. C'est comme ça. Et ça, pas depuis hier, ça fait 300 ans. Depuis le siècle des Lumières, on est les meilleurs. C'est tout.
Ça fait du bien quand même, un peu, de le dire.
Il faut le dire, au lieu de se flageller en permanence et se dire tout le temps qu'on est nul, que machin, que truc. On est les meilleurs. Maintenant, il faut qu'on en prenne conscience et il faut qu'on le dise et qu'on le répète. D'accord ? Exemple simple, encore une fois, puisque j'aime bien les exemples, j'aime bien les chiffres. On est 0,8% de la population, d'accord, mondiale.
La France.
Et on a le plus de médailles Fields du monde. Médailles Fields est équivalent à prix Nobel de mathématiques. Ok, bon, c'est pas tout à fait vrai.
En littérature, on n'est pas mauvais aussi. Hein.
Oui, en littérature, on n'est pas mal. Donc, en fait, mais ce que je veux dire, c'est ça. Notre peuple éduqué est très fort. Ouais. On est les meilleurs. Donc, il faut se le dire. On répète. Alors bon, il faut pas. On est un peu arrogant des fois aussi, hein, mais bon, ça nous fait. Pas assez, je trouve. Il faut qu'on soit un peu plus. Il faut qu'on soit arrogant au bon endroit, je pense. Mais voilà. Donc, on a une éducation fabuleuse. On laisse trop de monde sur le bord de la route. Les gens qu'on laisse sur le bord de la route, c'est ceux-là qui, en général, sont fragiles et vont écouter ces théories du complot, ces trucs ridicules, enfin, tout ce qu'on peut entendre sur les vaccins ou sur l'intelligence artificielle. Donc c'est ces personnes-là qu'il faut remettre dans le chemin de l'éducation. Et pour le faire, ben il faut le faire. Alors, le faire avec des bouquins, c'est compliqué parce qu'ils lisent pas des bouquins, ces gens-là, d'accord. Donc, le faire avec des conférences, en allant les voir, en essayant d'en les toucher comme ça, avec des exemples simples. Hein, comme mon bouquin, c'est pas la littérature, hein, je peux vous dire, c'est vraiment tout simple, mais c'est des exemples, beaucoup beaucoup d'exemples, et donc expliquer par l'exemple et expliquer que finalement c'est pas si compliqué que ça. Ça a l'air, mais ça n'est pas.
Vous avez réussi à faire changer d'opinion certaines personnes ?
Ah oui, plein. Alors je peux vous dire un truc. Bon, je fais des dizaines et des dizaines de conférences par an, hein. Et bon, pas à chaque fois, mais très très souvent, à la fin du discours, les gens viennent me voir et me disent « Oh là là, j'avais cette vision de justement cette intelligence artificielle omnipotente qui allait nous tuer ou qui allait faire des trucs géniaux. Ben merci, vous m'avez expliqué, maintenant je comprends mieux ce que c'est. » Donc évidemment, oui, mais encore une fois, c'est pas en une heure, vous pouvez retourner plein de gens. Enfin, c'est même pas les retourner, c'est juste les tourner vers la lumière.
Et alors aujourd'hui, au-delà des conférences, etc., en fait, donc d'après ce que je comprends, vous avez voulu vous investir, notamment via des fondations, et ça s'adresse plutôt à des personnes en fait que vous souhaitez aider à éduquer dans des domaines informatiques, ou c'est vraiment beaucoup plus général que ça ?
Ben, c'est général, comme je parlais tout à l'heure des vaccins, je pense qu'il faut juste apprendre aux gens à apprendre. Apprendre aux gens à savoir qu'ils sont pas idiots, et qu'ils peuvent réfléchir par eux-mêmes, et qu'ils ont des possibilités de juste écouter, faire la part des choses, et donc du coup, bah, d'être indépendant dans leur réflexion, au lieu d'aller écouter n'importe quel débile qui est là pour son propre intérêt en général.
Avoir une liberté de penser, et ça vous pensez que vous-même, vous l'avez... Enfin, c'est vrai que je vois un lien énorme entre la recherche... Le fait que finalement vous êtes obligé de vérifier des sources, aller creuser, et c'est un exercice qu'on fait plus tant que ça, même à l'école. Il y a beaucoup d'apprentissage par cœur, qui veut dire qu'on apprend des choses et qu'on les prend pour acquises.
Ouais, moi j'ai appris des choses que je prends pour acquises, hein. Napoléon il est bien. mais oui, bah, évidemment après, oui, on peut toujours, en fonction des domaines, être plus ou moins à l'aise et plus ou moins poussé vers des croyances. Bon, après, ça m'est à la limite égal. Si dans d'autres domaines que je trouve importants, les gens vont aller creuser par eux-mêmes.
Et alors, dans le cadre de ces fondations, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu des actions qui peuvent être mises en place pour qu'on visualise ?
Ben en fait, moi je fais, j'ai pas de choses particulières que je peux pointer parce que j'essaye de d'amener ce que je peux à plein de gens comme je peux. Par exemple, avec le bouquin, les proceedings, les comment s'appelle
les recettes.
Les recettes, merci, sont versées à ces fondations. Voilà, donc c'est elles qui savent quelles sont les actions à mener. Elles savent comment faire en sorte de toucher le maximum de gens et tout ça. Moi, je suis pas un spécialiste de ça non plus. Quand elles me demandent d'aller faire des conférences et tout comme ça, je sais faire, je peux faire des choses que elles font très bien. Je peux pas le faire, mais on va les aider avec des moyens sonnants et trébuchants.
Si on revient un petit peu au métier intelligence artificielle et à tout ce que vous faites au quotidien, donc vous avez dit que vous avez bossé pour des startups, vous avez bossé pour des grands groupes. Là, je sais que vous travaillez plutôt pour des grands groupes actuellement. C'est quoi pour vous, enfin c'est quoi en ce moment vos cheval de bataille ? Je ne sais pas si on dit des chevaux de bataille.
Des chevaux. Ouais.
Voilà, je ne sais pas. On va avoir un auditeur qui nous le dira certainement. Mais en gros, c'est quoi vos marottes du moment ? Les choses qui vous plaisent, que vous kiffez, sur lesquelles vous avez envie de bosser ?
Ouais. Comme j'étais là, moi j'aime bien faire des trucs pour les vrais gens. D'accord ? Et aujourd'hui, il y a trois domaines qui m'intéressent en particulier à cause des constats de où va la population et comment ça se passe avec notre relation avec la Terre et les choses comme ça. D'accord ? Donc les trois choses qui m'intéressent aujourd'hui, c'est le transport. Transport, ça m'intéresse parce que la population est vieillissante, donc c'est de plus en plus compliqué d'aller d'un point A à un point B.
Aérien en particulier ou
transport
non,
en général et transport. Plutôt qu'il va faire en sorte qu'on fasse attention à comment on se transporte de ce point A à ce point B. D'accord? Sachant que nos ressources sont limitées et donc il faut faire un peu attention. Donc sans être tombé dans le greenwashing, pardon.
Et qu'on est de plus en plus nombreux.
On est 7 milliards et demi, donc c'est beaucoup. On sera 10 milliards dans quelques années. Donc c'est compliqué. Notre Terre, elle est toute petite finalement et on est en train de la faire péter. D'accord? Donc comprendre comment faire en sorte de pouvoir donner la possibilité à de plus en plus de gens de se déplacer, mais dans des conditions qui font qu'on va pas faire péter la Terre. D'accord? Donc ça, c'est un truc intéressant, compliqué, hein, mais intéressant. Je fais pas du greenwashing, hein, c'est juste que je veux comprendre un peu comment vont marcher ces interactions. Deuxième chose qui m'intéresse énormément, c'est la médecine. D'accord? Donc, même façon, on a vu que grâce à la médecine, dans les années qui viennent de s'écouler, les 50, 60, 100 ans qui viennent de s'écouler, les gens vivent de mieux en mieux. Alors je veux pas, je cherche pas l'immortalité, moi. Hein, je suis pas comme d'autres débiles comme Musk. je pense pas que l'immortalité soit humaine, donc ça sert à rien. Mais par contre, je veux que les gens se sentent le mieux possible. Hein, quand je dis que je fais des trucs pour les vrais gens, ils ont des problèmes hein, de temps en temps. Donc, grâce à l'intelligence artificielle, grâce à ces technologies que sur lesquelles je travaille depuis des années et des années. Il y a des possibilités extraordinaires. On en a montré déjà plein, hein. Par exemple, l'imagerie médicale. Aujourd'hui, on peut trouver un cancer du sein dans une imagerie médicale d'une manière beaucoup plus, beaucoup mieux que ce qu'on pouvait faire, que pouvaient faire les médecins eux-mêmes. Ça ne veut pas dire qu'ils sont remplacés, là. Ça veut dire qu'ils sont aidés par cet outil. D'accord? Donc, ça, c'est un exemple. Un autre exemple, on a découvert, il n'y a pas tellement longtemps, il y a une vingtaine d'années, le génome, d'accord? Donc, on a compris les séquences d'ADN et tout ça. Il se trouve que c'est des statistiques, ça. Statistiques, c'est des mathématiques. Les mathématiques, c'est de l'IA, d'accord? Donc, il y a un champ statistique extraordinaire d'application pour l'intelligence artificielle dans l'ADN.
Du débat, là, encore, hein?
Ben, c'est pas pour aller changer les choses, c'est pour aller comprendre les choses. C'est parce que l'objectif, c'est de comprendre une maladie avant qu'elle arrive. Quand vous allez chercher dans une image le début d'un cancer, vous n'allez pas changer le cancer. Vous savez qu'il est là. Il vaut mieux savoir que pas savoir, hein, parce qu'au bout d'un moment, c'est trop tard. Et là, c'est exactement pareil. Dans l'ADN, hein, vous pouvez, c'est un champ statistique fabuleux, mais c'est très très compliqué. Mais étant donné que ça matche très très bien avec l'intelligence artificielle, vous allez pouvoir savoir des choses bien avant. D'accord? Alors, il y a un débat peut-être qui est-ce qu'on veut savoir ou pas? Mais enfin, moi, je peux vous dire, avec mon histoire personnelle, je veux savoir. Mais bon, ça, c'est une autre chose. Donc ça, c'est la médecine, c'est une autre chose. Et puis après, il y a la vie de tous les jours. la vie de tous les jours, la science dans la vie de tous les jours, et en l'occurrence dans ce dont j'ai parlé un tout petit peu en parlant des transports et de cette terre qu'on est en train de piller. Hein. Donc comprendre comment la science, comment l'intelligence artificielle, en l'occurrence donc mon domaine, peut aider à faire en sorte qu'on n'aille pas forcément dans le mur vers lequel on se précipite en ce moment, mais aussi être complètement réaliste du fait que cette intelligence artificielle elle-même contribue à aller dans le mur. Parce que les ressources qu'on utilise aujourd'hui en intelligence artificielle, j'ai dit une phrase tout à l'heure qui est importante, c'est que tout le monde peut faire de l'intelligence artificielle maintenant. Et c'est un problème, parce que comme tout le monde peut en faire, on en fait pour tout et n'importe quoi. Mm. Alors, faire pour trouver un cancer dans une imagerie médicale, moi je suis à fond. Le faire pour jouer au dernier jeu débile à la mode, je pense qu'il faut réglementer, il faut réguler. Et il faut que la société, donc nous éduquer, qu'on fasse remonter aux régulateurs les choses sur lesquelles on peut utiliser ces sciences, ces outils, ou pas. Parce que utiliser une intelligence artificielle, c'est utiliser beaucoup, beaucoup de ressources. Un data center, par exemple, qui va utiliser énormément de ressources électriques, d'accord ? Encore une fois, pour détecter un cancer, ça me dérange pas. Pour jouer un jeu débile, ça me dérange. D'accord ? Mais il faut qu'on soit éduqué, qu'on comprenne qu'on utilise pour ça et pour ça, pour que le législateur, avec notre soutien, décide que on arrête de faire les trucs débiles. Okay, et on concentre les ressources, les peu de ressources qui nous restent, on les concentre sur les choses intéressantes.
Hyper intéressant. Je voulais rebondir sur la thématique des transports et de l'environnement et vous demander si vous pourriez donner un exemple de comment l'intelligence artificielle pourrait être utile.
Ouais. Donc, c'est de l'optimisation. D'accord? Donc, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est que, on sait, on va certainement dans les voitures, on se dirige vers les voitures électriques. D'accord? Donc, c'est certainement très bien pour plein de raisons, pour les émissions, etc. Donc, émissions carbone et tout, ça va être super. Donc, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Les voitures électriques, elles sont un peu moins pratiques, on va dire, que les voitures à essence. Parce que les voitures à essence, j'ai eu aucun problème d'aller recharger le machin à la pompe. Et recharger l'électricité, c'est un peu plus compliqué. Alors, certainement qu'on aura des pompes électriques aussi qui vont être aussi faciles à utiliser bientôt. Mais aujourd'hui, on se dit plutôt, essayons d'utiliser moins d'énergie. Même si on utilise cette nouvelle énergie qui est plus propre, utilisons moins. Donc, optimisons. Et pour optimiser, on va optimiser, par exemple, les chemins. Donc, faire en sorte de toujours prendre le meilleur chemin pour aller du point A au point B. Et donc, c'est ces intelligences artificielles qui vont dire, en fonction du trafic, de la météo, donc il y a plein de facteurs qui vont faire qu'on peut optimiser. Et donc, c'est parce que c'est des trucs compliqués qui, nous, humains, nous seraient un peu trop compliqués parce qu'il y a trop de paramètres. Pour une intelligence artificielle, il n'y a jamais trop de paramètres. Mmh. D'accord? Donc on lui balance tout ça et elle va nous dire, regarde, là, tu vas faire de là à là et tu vas économiser tant. Et ça, c'est bien.
Pour terminer, Luc, j'ai un petit jeu à la fin, j'appelle ça le crible. C'est des questions un peu plus perso que j'aime bien poser. Il y en a une que je voulais vous demander, c'est est-ce que vous avez vécu dans votre vie un grand échec ou un grand moment de doute, de difficulté dont vous pourriez nous parler et surtout, si vous voulez, les enseignements que vous en avez tirés.
L'échec, c'est ce dont j'ai parlé tout à fait au début. Hein. C'était cette déception de voir ce que c'était que le CNRS quand je n'avais rêvé de la façon dont j'en avais rêvé. Et ce que ça a fait pour moi, alors je suis un ancien sportif de haut niveau, donc...
Dans quel domaine ?
Je faisais de l'athlétisme, lancer du disque, donc bon.
D'accord.
Mais ce que ça a fait pour moi, c'est en fait, ça n'a fait que décupler ma niaque, hein, parce que en tant que Toulousain aussi, je joue au rugby. Et si vous voulez, ça n'a fait que me dire, on va pas rester comme un bouffon comme ça, à se lamenter dans le machin. Et donc, c'est là où l'impulsivité dont je parlais tout à l'heure, en disant, je suis un peu impulsif, donc je suis parti. Je suis parti. Et je suis parti loin, parce que je suis parti à Boston à l'époque, donc c'était loin, c'était un changement radical. Mais en même temps, c'était ce dont j'avais besoin pour montrer que ce que j'avais tracé, que je pensais avoir tracé pour moi, cette courbe idéale dans les études et tout ça, pour arriver où je voulais arriver, finalement, c'était pas bon, il fallait faire un rebond, un vrai rebond, qui allait amener complètement ailleurs, dans un endroit complètement inconfortable, encore une fois. L'inconfort dont je parlais tout à l'heure, je le veux pour les autres, mais je le veux pour moi aussi. Mmh.
Donc en gros, si je paraphrase, mais c'est pour comprendre, vous avez appris à accepter en fait de tout remettre en cause, même si vous aviez cette déception. Et si je résume, et ça je veux dire que même pour moi c'est un super enseignement, c'est de se dire, bah, en fait, c'est pas parce que j'ai été déçu que je vais me lamenter pendant des mois, c'est à moi d'agir et je me casse, quoi.
Et un truc qui est super important et que j'admire chez les Américains par rapport à nous Français, c'est la culture de l'échec. Parce que c'était un échec personnel. Et cet échec personnel, au lieu de dire, ben, ça y est, je suis nul à vie maintenant.
C'était pas, en plus, c'était même pas vraiment un échec, au sens où vous avez rien raté.
Mais oui, mais c'était un échec pour moi, parce que c'était mon idéal. C'était, ça faisait presque 20 ans que je travaillais pour ça. D'accord? Donc, c'était quand même, donc c'est un échec. Mais maintenant, donc, quand je dis la différence entre nous, Français, on va dire, et les Américains, c'est que justement, cette culture de l'échec est super importante dans la Silicon Valley. Si vous créez une boîte, et que vous n'êtes pas planté avant, oui. On va même pas vous écouter. Ici, si vous êtes planté avant et que vous créez une boîte, ils vont vous dire, bah non, toi, Coco, c'est gentil, t'es marqué à vie, je te donne pas d'argent. D'accord? Donc, c'est la culture de l'échec. L'échec fait partie de l'éducation. Et ça, c'est un truc que moi, j'ai appris et que je respecte tout à fait. Je dis pas que je fais exprès de me planter, hein, mais je sais que quand je me trompe, ben en fait, c'est un moyen d'apprendre quelque chose de nouveau, d'accord. Et donc, ben cet échec de quand j'avais 20 et quelques années, ben il m'a appris en fait que je pouvais rebondir ailleurs. Et puis ça s'est pas trop mal passé après.
Clairement. Si on revient juste sur ce sujet, le rebond, il a été rapide. Ça a mis du temps ou pas pour que vous preniez la décision de partir. C'est-à-dire que vous avez dit, à un moment, vous dites, ok, c'est pas fini. Fait pour moi, je pars.
Fini. Ouais. Ah oui, c'est fini. Je suis parti. 15 jours.
Bah, c'est ça aussi qui est assez fort quand même, c'est que c'est la rapidité de la décision et d'un tel changement de vie.
Ouais, bon, encore une fois, vous pouvez imaginer, à 20, 22, 23 ans, je sais pas,
c'est une belle opportunité. Hein,
donc bon, donc c'est facile de rebondir là, donc faire à 50, c'est certainement plus compliqué.
Sans doute. S'il y avait quelque chose à refaire dans votre vie, perso, pro, qu'est-ce que vous referiez différemment?
C'est immodeste certainement de dire ça, mais je vois pas, moi je suis content.
Vous avez raison.
Donc je vois pas, franchement je...
Vous êtes plutôt quelqu'un d'optimiste?
Ouais, fondamentalement, ouais.
Et quand vous avez quand même des coups de mou, vous faites quoi pour en sortir?
Non, ça n'existe pas ça, des coups de mou, c'est un truc...
C'est vrai?
Non, il faut pas, ça sert à quoi? Ça sert à rien.
J'ai eu un invité une fois qui m'a dit le bonheur est une décision, je trouvais ça pas mal.
Bah ouais, je pense qu'il a raison, ouais.
Dernière question pour vous, Luc. Est-ce qu'il y a un livre, ça peut être autre chose, ça peut être un film, enfin un objet culturel, on va dire, qui vous a particulièrement marqué? Pourquoi? Une philosophie de vie, quoi.
Alors, il y a un film, alors c'est un film débile, hein, donc, mais c'est un film qui m'a marqué, qui est débile, parce que vous pouvez le regarder, en fait, à plusieurs degrés. Et donc, il vous apprend que finalement, l'éducation est importante. C'est quoi ce film? Ça s'appelle Idiocratie. Donc c'est un film débile, c'est un film américain qui date de 2003. La seule bonne nouvelle dans l'histoire, c'est qu'il doit faire à peu près 70 minutes, donc il est assez court. Mais alors c'est complètement idiot, hein, c'est complètement, vraiment complètement idiot, mais je vous le conseille, hein, vraiment. Je pense qu'il est sur toutes les plateformes possibles, imaginables. C'est un film qui était fait donc dans les années 2003, dans les années Bush, vous voyez, et donc dans les années où Bush coupait tous les budgets de l'éducation aux États-Unis pour justement rendre les gens débiles. D'accord? Et ça a donné Trump quand même après, hein. Il faut quand même comprendre que 20 ans plus tard, ce qui a donné Trump, c'était la politique de Bush aux États-Unis pour l'éducation. Et ça, justement, quand vous relisez ça à l'aune de ce qu'on a dit tout à l'heure, l'éducation est super importante et il faut pas que les gens deviennent débiles, parce que l'idiocratie, ça crée une société d'idiots. Mais, c'est pas que des idiots. Il y en a quelque part, qui, eux, sont éduqués. Eux, ils savent. Et ils vous mettent sous leur joue, justement, et ça devient une dictature. Et c'est une dictature par l'intellect, en quelque sorte, qui est super triste. Parce que vous vous rendez compte que, ben, eux, ça va bien. Mais ils ont créé, donc, des débiles, qui font tout ce qu'ils veulent, et qui comprennent rien, et qui sont, bon, complètement idiots.
j'étais tombée sur un article assez flippant qui expliquait que les États-Unis, il y a encore une dizaine d'années, étaient dans les trois premiers, vous savez, sur le rapport PISA en termes d'éducation, et maintenant étaient 30e en dessous d'un certain nombre de pays qui sont des pays en voie de développement. Et effectivement, je pense que, alors j'espère que la France n'est pas en aussi mauvaise voie, mais je pense qu'il y a un vrai travail à faire. Et je pense qu'il y a aussi, une, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais une responsabilité personnelle de chacun de vouloir s'éduquer, parce que c'est bien de demander à l'État de le faire, mais on peut aussi essayer de le faire soi-même, si on en a les moyens, bien sûr.
Oui, bien sûr, mais la responsabilité des parents est importante là. Hein, donc, mais bon, encore une fois, on peut rentrer dans un... comment on appelle ça?
Débat.
Non. Ça y est, je bombe complètement.
Bon, dites-le en anglais si vous voulez.
Non, mais je l'ai pas.
Vous l'avez nulle part.
Je l'ai pas en espagnol, j'ai pas en russe, j'ai rien du tout. Je l'ai pas.
Pour entrer dans quelque chose.
Ouais, dans quelque chose qui est un cercle vicieux, voilà. Qui fait que les parents s'éduquent pas, ils ont pas envie d'éduquer leurs enfants, blablabla, et puis bon, là, on rentre dans des générations perdues. Donc. C'est compliqué. Et c'est pour ça que quand je parlais tout à l'heure de, il faut faire super attention aux gens qu'on laisse sur le bord du chemin. On en laisse de plus en plus hein, en France parce qu'on aime nos élites quand même. Hein. Et le travail qu'il faut faire, c'est certainement là-dessus aujourd'hui, plus que de dire que on est nul. Il faut dire on est très bon, mais il faudrait qu'on soit plus encore à être très bon.
Surtout dans une démocratie. Luc, c'était passionnant. Je vous remercie. Est-ce que vous avez un dernier mot à nous dire avant que je vous demande où est-ce qu'on peut vous retrouver? Vous n'êtes pas du tout obligé, mais je sais pas, un message, un cri du cœur que vous voulez partager avec nous?
Non, mais je pense que c'est ce que j'ai répété mille fois pendant cette intervention ici. C'est éduquons-nous, éduquons et soyons critiques envers ce qu'on lit et ce qu'on écoute et essayons de faire notre propre opinion, quoi.
Merci Luc. Si on veut vous retrouver sur le monde merveilleux du web, on ne vous retrouve pas en
non,
fait.
Pas,
on vous cherche,
ouais.
Mais on ne vous trouve pas.
Non.
Très bien. Merci beaucoup.
Avec plaisir.
Et voilà, fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Merci d'avoir passé tout ce temps avec moi. Et quelques petites choses avant de vous quitter. D'abord, si vous cherchez les notes de l'épisode avec toutes les références, c'est simple, allez directement sur le blog du podcast. Donc c'est www.le-du-6-gratin.fr. Vous trouverez normalement toutes les infos dessus. Aussi, si vous souhaitez me contacter pour me poser d'autres questions, que je mettrai d'ailleurs peut-être un jour sur le podcast, ou me proposer de nouveaux invités, ou juste me faire un feedback, me proposer un livre, peu importe à la rigueur, et bien surtout, n'hésitez pas à le faire. J'aime bien répondre. J'essaye d'être assez active sur les réseaux sociaux et en particulier sur LinkedIn et sur Instagram qui sont mes deux réseaux sociaux de prédilection. Donc sous le pseudo Pauline Léniaud, tout attaché, c'est très simple. Dernière chose, un truc qui compte énormément pour moi et je sais que c'est pénible à faire mais vraiment ça compte, c'est si vous me laissez une note 5 étoiles ou que vous parlez du podcast autour de vous ou que vous mettez un avis. Et la note 5 étoiles, c'est en particulier sur Apple Podcast, sur iTunes. Pourquoi? Parce que c'est là qu'il y a le plus d'écoute et avoir des notes en fait permet de donner plus de visibilité au podcast. Donc vraiment, vraiment n'hésitez pas. Et si on est si nombreux aujourd'hui à écouter Le Gratin, à faire partie de cette communauté, c'est grâce à vous et justement à toutes ces personnes, c'est plus de 3000, 4000 personnes qui ont à chaque fois pris le temps de mettre des notes, donc ça m'aide beaucoup et merci à eux. Comme à chaque fois, vraiment un grand grand merci de m'avoir écouté jusqu'ici, j'espère que l'épisode vous a plu et je vous dis à très bientôt.